8h à Saint-Brévin et sur France Culture. Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un constat d'échec sans appel pour la diplomatie internationale au moment où une énième réunion sur la Syrie aboutissait à une nouvelle impasse. Hier, le régime lançait une grande offensive contre les quartiers rebelles d'Alep. Une guerre et des populations sur les routes de l'exil. France Culture pose la question ce matin de l'accueil des migrants. Nous vous emmenons dans ce journal au Chambon-sur-Lignon, connu pour avoir toujours ouvert ses portes à l'étranger. L'histoire se répète aujourd'hui, malgré l'appel du président de la région, Laurent Wauquiez, aux élus de refuser les réfugiés. Laurent Wauquiez, dont la maire, par ailleurs, est élue au Chambon. Le Gabon, dans l'attente du verdict de la Cour constitutionnelle. La Cour doit dire aujourd'hui qui a remporté l'élection présidentielle, le sortant Ali Bongo ou l'opposant Jean Ping. Et puis en France, nous vous parlerons de ces médicaments très innovants, contre le cancer notamment, mais hors de prix. La Ligue contre le cancer veut en débattre. Et puis la réouverture de la salle Pleyel à Paris, scène mythique pour ses concerts symphoniques. Rachetée par l'État, la musique classique y est désormais interdite. Un déluge de feu. Alep, ville martyre, est de nouveau la cible d'une offensive du régime de Bachar al-Assad. Les quartiers rebelles de la deuxième ville de Syrie, ancienne capitale économique, échappent au pouvoir depuis 2012. Cette nouvelle offensive a été lancée au moment même où une énième réunion échouait à New York. Nouvel exemple de l'impuissance de la communauté internationale. Charlotte Alix a suivi la rencontre de New York.
Les mots de Staffan de Mistura, l'envoyé des Nations Unies pour la Syrie, résument bien la frustration des uns et des autres à la sortie de cette réunion.
C'était une réunion longue, douloureuse, difficile et décevante. Nous avons eu une intense discussion, mais sans aucune conclusion concrète.
Rien ne s'est passé, a confirmé le ministre russe des Affaires étrangères, alors que son homologue américain a reconnu que le processus était dans l'impasse. Pour John Kerry, c'est Moscou qui a les cartes en main.
Nous ne pouvons pas être les seuls à essayer de garder la porte ouverte. La Russie et le régime syrien doivent faire des efforts où il n'y aura aucune chance. La question dorénavant est de savoir s'il reste une véritable chance d'avancer, parce qu'il est clair que nous ne pouvons pas continuer plus longtemps sur cette voie.
La réunion d'hier s'est essentiellement concentrée sur la proposition américaine de clouer au sol les avions. De sources diplomatiques, la Russie proposerait 3 jours de pause pour restaurer le cessez-le-feu, mais les États-Unis cherchent à obtenir plus. Russes et Américains se retrouvent aujourd'hui pour de nouvelles discussions, mais alors que le régime intensifie ses bombardements sur Alep, plus grand monde ici ne croit que cette semaine de négociations s'achèvera sur une note positive.
Charlotte Alix, notre correspondante au siège de l'ONU à New York. La guerre en Syrie, c'est donc 5 ans et demi de conflit, plus de 300 000 morts et des millions de déplacés à l'intérieur du pays ou à l'étranger, beaucoup en Europe. Justement, nous consacrons notre antenne ce matin à cet enjeu, l'accueil des migrants. Nous avons choisi dans cette édition de vous emmener au Chambon-sur-Lignon, petite commune de la Haute-Loire, devenue célèbre pour avoir recueilli des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le Chambon répète l'histoire avec des migrants. C'est un reportage de Marie-Pierre Véraud.
Le Chambon-sur-Lignon, village de Juste, terre protestante et sa tradition d'accueil des minorités persécutées, les réfugiés espagnols dès 1937, les centaines d'enfants juifs pendant la guerre. Le Chambon, son lieu de mémoire qui jouxte l'école.
C'est une dénomination qui se veut très neutre.
Denise Valla, adjointe à la culture.
Parce que la tradition ici n'est pas de mettre en avant des personnes. Beaucoup de personnes ici ne souhaitaient pas que soit mise en avant l'action des habitants pendant cette période. Et ils trouvaient que c'était, je ne dirais pas déplacé, mais que ce n'était pas nécessaire, parce qu'ils considéraient que quand ils avaient fait cela pendant la guerre, en accueillant des centaines et des milliers de réfugiés, ils n'avaient fait que leur devoir.
Cette discrétion reste de mise malgré la grande banderole devant le temple qui proclame « Exiler l'accueil d'abord ». L'accueil se vit au quotidien ici. Dans chaque classe, depuis la maternelle, il y a des enfants de réfugiés, des demandeurs d'asile du CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile inséré dans le village où les réfugiés côtoient les Chambonnais, ce qui change tout, explique Marianne Mermet-Bouvier de la CIMAD.
La population ne se pose pas de questions au niveau théorique, parce que les réfugiés, ils sont là et on agit. Donc on les accueille. On partage, on fait des collectes de vêtements, on amène un panier légumes. Je pense que la situation est différente si on en parlait avant qu'ils arrivent. Quand on voit une famille, une maman avec son petit dans les bras, on ne se pose pas la question est-ce qu'il est légitime ou pas de les accueillir. On accueille, point.
Le Chambon-sur-Lignon est d'ailleurs particulièrement bien équipé pour l'accueil, détaille Perrine Bariol, conseillère presbytérale.
Il y a vraiment toutes les structures pour l'accueil, particulièrement l'école. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a une institutrice spécialisée pour l'apprentissage du français à l'école primaire et au collège. Donc c'est quand même rare. Dans les villages à côté, il n'y a pas cette possibilité. Et les assistantes sociales sont tout à fait formées pour aider aux demandes d'asile. Et la mairie aussi, parce qu'il y a quand même tout ce qui est carte de séjour, tout ça c'est particulier. Les petits villages n'ont pas coutume de faire ça. Donc ici, ils ont ce savoir-faire. Donc c'est dommage de ne pas l'exploiter plus. Et puis il y a tout le côté oui, juridique avec la CIMAD. Donc on peut accueillir plus. Et mieux.
Si la municipalité a refusé l'agrandissement du CADA, si le lieu de mémoire ne fait pas résonner l'accueil d'hier avec celui d'aujourd'hui et les nouveaux exilés du XXIe siècle, elle s'est portée volontaire pour recevoir des mineurs isolés, à rebours de l'appel lancé par le fils de la maire du Chambon, Laurent Vauquier.
Voilà le reportage au Chambon sur l'Union signée Marie-Pierre Véraud. Et après ce journal, on retournera avec Guillaume Erner à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Les matins en direct de cette commune, choisie elle aussi pour accueillir des réfugiés et désengorger la jungle de Calais. Mission accomplie pour Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, affirme en tout cas que l'an prochain, elle aura bouché le trou de la Sécu. Et elle peut se targuer dès ce matin d'avoir drastiquement comblé le déficit du régime général. En un an, il est passé de 10,8 milliards à environ 7 milliards d'euros, son niveau le plus bas depuis 2002. Alors tout n'est pas gagné quand même. Exemple avec certains médicaments innovants pour combattre des cancers, des médicaments hors de prix. La Ligue contre le cancer veut relancer le débat à travers une journée de rencontre aujourd'hui à Paris. Car l'ambition, c'est bien de maintenir un même accès aux soins pour tous, Aurélie Kiefer.
L'innovation thérapeutique sauve des vies. Christophe Lefebvre peut en témoigner.
On m'a annoncé donc entre 15 jours et 6 mois de survie grand maximum quand on m'a découvert cette maladie. Je me suis enfermé chez moi pour faire mon testament. Mon médecin traitant, qui était par ailleurs chef de clinique, m'a fait hospitaliser pour faire toute une batterie d'examens. Il est revenu vers moi en me disant « Christophe, il y a un médicament miracle qui vient de sortir aux États-Unis, on va te guérir ».
Mais ces médicaments miracles ont un coût parfois exorbitant. Soigné pour une leucémie, Frédéric de Montfaucon se demande comment il ferait si la sécurité sociale n'était plus en mesure de financer son traitement.
Le prix de la boîte, c'est 2500 euros. Donc là, je double moi les doses, donc je suis à 5000 euros par mois. Je coûte aujourd'hui 60 000 euros à la société tous les ans.
Si l'on veut maintenir l'équité dans l'accès aux médicaments onéreux, il faut rapidement mettre en œuvre des solutions, insiste le professeur Claudine Esper, vice-présidente de la Ligue contre le cancer.
Il faut que d'une part, on aboutisse à un prix juste, qui soit vraiment en fonction du coût de la recherche, de la production, du développement, et d'autre part, un prix qui soit décomposé, que l'on le connaisse, qu'on pose des règles là-dessus, un prix donc qui soit transparent pour tous, et qu'on évite que dans tel pays, c'est 800 euros la boîte, et dans un autre pays comme en France, c'est 5000 euros. Ça, c'est tout à fait anormal.
La Ligue réclame notamment une réforme du comité économique des produits de santé qui fixe le prix des médicaments. Elle souhaite que les délibérations soient plus transparentes et que les associations de patients soient représentées.
L'actualité du jour en France est aussi le procès Kerviel. L'ancien trader de la Société Générale va savoir aujourd'hui s'il doit ou non verser près de 5 milliards d'euros de dommages-intérêts à son ancien employeur. La cour d'appel de Versailles se prononce dans la journée. On verra si elle suit le parquet qui, en juin, s'était opposé à cette condamnation faramineuse. Un ancien membre du GIA recherché par la police française, arrêté en Suisse, Merwan Benhamed, du groupe islamique armé algérien, était assigné à résidence à Évron, dans l'ouest de la France. Il ne s'était pas présenté au début du mois à la gendarmerie pour ses pointages quotidiens. Il risque pour cela la prison. La police helvète nous apprend également qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse. Une attente et une certaine appréhension au Gabon. La Cour constitutionnelle rend son verdict aujourd'hui. Saisie par l'opposant Jean Ping, elle doit dire qui a remporté l'élection présidentielle fin août. Officiellement pour l'instant, Ali Bongo, chef de l'État sortant, a été reconduit. Mais son rival conteste les résultats. Le point avec Valérie Crovin.
La Cour constitutionnelle s'est retirée hier après-midi après avoir terminé le recomptage des voix réclamées par Jean Ping dans la province du Haut-Ogooué. C'est le fief familial de la famille Bongo où Ali, le président sortant, aurait obtenu 95% des voix d'après les résultats provisoires proclamés le 31 août dernier. De quoi lui assurer une courte victoire avec 5000 petites voix d'avance seulement sur son adversaire qui a immédiatement mis en doute la transparence du scrutin et crié à la fraude. Il revient donc à la Cour constitutionnelle de trancher, mais Jean Ping ne se fait guère d'illusions. Il reproche à la très influente présidente de la Cour jour sa collusion avec le pouvoir. Marie-Madeleine Mborantsuo, surnommée 3M, a été placée à la tête de l'institution en 98 par Omar Bongo, le père d'Ali, dont elle fut l'une des nombreuses maîtresses. En attendant le verdict, une ambiance de veillée d'armes règne à Libreville. Les forces de l'ordre ont commencé à se déployer dès hier au carrefour de la capitale. Les Gabonais font des provisions. Le lycée français a fermé ses portes. Les autorités gabonaises ont par ailleurs averti le chef de l'opposition qu'il risquait d'être arrêté en cas de nouvelle flambée de violence, comme le pays en a connu il y a 3 semaines.
En République démocratique du Congo aussi, l'opposition craint que le président Joseph Kabila ne s'accroche au pouvoir, et cette fois en dépit de la Constitution. Le calme est revenu pour l'instant à Kinshasa après plusieurs jours de violences meurtrières. Le chef de l'État aurait dû convoquer le corps électoral mardi pour organiser l'élection avant la fin de l'année, son mandat se terminant le 20 décembre. Il ne l'a pas fait. Un calme tout en tension également à Charlotte, aux États-Unis. Des manifestants ont occupé les rues de la ville de Caroline du Nord, bravant le couvre-feu. 3e nuit donc de protestations après la mort d'un homme noir abattu par la police. Le Brexit sera lancé au début de l'année prochaine. Le gouvernement britannique compte activer l'article 50 début 2017, annonce faite hier par le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. L'article 50 enclenchera la procédure de divorce, censée durer 2 ans. Boris Johnson, lui, estime que le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait se faire encore plus rapidement. Direction maintenant l'Estonie, pour un avant-goût de notre magazine de la rédaction. Bonjour Bruno Caden.
Bonjour Amélie.
Vous nous emmener à Tartu, 2e ville estonienne cette semaine, car le pays est sur le point d'inaugurer son musée national, un projet centenaire et l'occasion de dépasser les terribles cauchemars des déportations massives et de 50 ans d'occupation soviétique, Bruno.
Oui, au départ, l'Estonie avait 2 problèmes à Tartu, au sud du pays. Il y avait à la fois dans les cartons depuis plus d'un siècle le projet de création d'un musée national estonien et le site d'une ancienne base aérienne soviétique abandonnée depuis le départ de l'armée rouge il y a 25 ans, lors de la restauration de l'indépendance. Un jeune cabinet d'architectes parisien, Dorel Gottmé et Tanné, a décidé de briser le tabou et de proposer que ce futur musée soit construit sur le site de la base, sur la piste de décollage, avec un bâtiment semblant s'envoler vers le ciel. Une fois le choc passé, les Estoniens ont accepté et après 10 ans d'attente, le musée le plus moderne au monde actuellement va ouvrir ses portes la semaine prochaine.
Mais pourquoi autant de polémiques alors, Bruno ?
Parce qu'en Estonie, le passé est terrible, pesant et dramatique et tout ce qui concerne les 50 ans d'occupation soviétique est plus que sensible. Le 14 juin 1941, suite au pacte germano-soviétique, l'URSS envahit l'Estonie et déporte 10 000 Estoniens en Sibérie en 2 jours. Les survivants ne rentreront chez eux qu'à partir de 1953, après la mort de Staline. Ce musée doit donc servir de thérapie à un peuple traumatisé par son histoire, d'autant plus que 30% des habitants actuels sont des russophones restés sur place à la chute de l'URSS et que les Estoniens de souche sont terrorisés depuis la guerre en Ukraine d'être les prochains sur la liste. Passé qui ne passe pas, mais également ultra-modernité technologique, ce sont les 2 visages de ce pays, à l'image de son nouveau musée national.
Estonie, un musée pour guérir du passé, ce sera votre magazine de la rédaction, Bruno Caden, merci beaucoup. Un magazine réalisé par Annie Brault et présenté de 17h à 18h par Tara Schlegel sur France Culture. Terminons ce journal par une autre inauguration à Paris, cette fois la réouverture de la salle Pleyel, mythique pour ses concerts symphoniques depuis 1927. Elle a été fermée pour rénovation. Et la nouvelle peau de Pleyel, c'est un virage à 180 degrés. La salle Art déco devient une scène pour les musiques pop, rock et jazz. Virage opéré depuis le rachat par l'État. Désormais, il est même interdit de jouer du classique à Pleyel et cela choque l'ancienne propriétaire des lieux, Cécile de Carvaz-Douy.
Pleyel a vu passer les plus prestigieux compositeurs et chefs d'orchestre. C'est là, par exemple, qu'a été créé ce concerto numéro 2 pour piano de Camille Saint-Saëns. Mais depuis plus de 10 ans, la salle est surtout connue pour ses démêlés en justice. Parce que l'ex-femme de l'ancien propriétaire considère que Pleyel aurait été sacrifié par son nouveau propriétaire, l'État, qui l'a racheté via la Cité de la Musique en 2009, et qu'il l'aurait donc sacrifié pour ne pas faire de l'ombre à la très politique Philharmonie de Paris, nouveau temple public de la musique classique qui a coûté 390 millions d'euros aux contribuables français. Carla Maria Tarditi.
Le fait d'interdire la musique classique en France est quelque chose pour moi d'impensable. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on veut prendre la salle Pleyel comme une vache à lait. On va compter sur les 6,5 millions que la salle Pleyel donnerait comme crédit pour la Philharmonie. Il y a des incongruités, certes politiques, mais qui n'ont rien à voir avec l'artistique.
La chef d'orchestre demande donc réparation et souhaiterait même récupérer Pleyel. Une décision du tribunal de commerce de 2014 semblait aller dans son sens, mais la concession a tout de même eu lieu et c'est l'entreprise Fimalac, du milliardaire Ladré de la Charrière, qui a dépensé 11 millions d'euros pour en faire une salle de musique actuelle. Alors, à quoi bon finalement continuer le combat judiciaire ? Olivier Pardot est l'avocate, Carla Maria Tarditi.
L'argument que nous livrent nos adversaires, c'est de dire « il est trop tard parce que ça y est, les travaux ont été faits, la remise en état coûterait encore plus cher, le fait l'emporte sur le droit, ça s'appelle une voie de fait, c'est condamné par la justice et c'est pour ça que nous sommes devant le tribunal de commerce. »
Le tribunal de commerce de Paris doit à nouveau statuer vendredi prochain sur cette affaire. En attendant, c'est Benjamin Biolay qui ouvre la nouvelle saison de la nouvelle salle Pleyel.
Smith, je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps.
Voilà Benjamin Biolay ce soir en concert pour la réouverture de la salle Pleyel, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Le temps de ce vendredi en musique, des nuages arrivent mais cela reste agréable. Les températures 9 à 13 degrés au petit matin. Cet après-midi, ça grimpe jusqu'à 20 degrés à Lille, 23 à Paris et à Chaumont, 25 à Lyon, 25 aussi pour Marseille et 26 degrés à Bordeaux et à Saint-Brévin-les-Pins. Eh bien, joli soleil, 12 degrés ce matin, nous dit Météo France, 22 cet après-midi. Saint-Brévin, où vous vous trouvez ce matin, Guillaume Erner?
Et oui, et 26 degrés, du coup, nous avons des inquiétudes pour le curé nantais. Rien à voir avec des questions de laïcité. Le curé nantais, c'est un fromage qu'on trouve notamment dans les crêpes. Car nous sommes en direct depuis la crêperie Le Galion.